I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a réalisé les Kaïra, Pattaya ou encore Taxi 5. Aujourd'hui, à 41 ans, le scénariste, acteur et réalisateur Franck Gastambide connaît un succès critique et populaire avec sa série sur le rap Validé. Série à voir sur Canal+ à partir du 11 mai et déjà disponible en streaming. Après un parcours scolaire chaotique, Franck Gastambide avait commencé sa carrière comme maître chien. Récit de Marie Poussel du service culture du Parisien. Marie Poussel, en octobre 2018, Franck Gastambide part tourner un épisode de l'émission de Frédéric Lopez sur France 2, Rendez-vous en terre inconnue. Comment ça se passe ?
C'est un moment très compliqué pour lui et en même temps, c'est un marqueur dans sa carrière parce que beaucoup de gens du grand public le découvrent dans cette émission. Et c'est un moment charnière parce que lui qui fonctionne à l'affect, Frédéric Lopez, avec qui il doit partir à l'autre bout du monde, lui annonce dans le hall d'embarquement que finalement, c'est pas lui qui va partir avec Gastambide.
Moi, je vous propose une expérience un peu extrême. Je ne pars pas en terre inconnue.
Mais non, c'est pas vrai. Pas après tout ce qu'on s'est raconté, pas après tout ce que tu me dis depuis tout à l'heure, pas après... Non, mais non.
Bon, dites-moi ce que vous ressentez, parce que c'est très étrange.
Franchement, une boule dans le ventre de malade. Moi, je pars avec toi, je connais personne là-bas. Tu comprends ?
Là, cette trahison, il n'arrive pas à l'avaler, et surtout, lui qui est extrêmement contrôle fric, va se retrouver dans un saut dans le vide puissance 1000. On lui met un bandeau. Il prend la main de quelqu'un, il ne sait pas qui est cette personne et il doit le suivre comme ça. Et là, il fait une véritable crise d'angoisse, ce que m'a raconté Raphaël de Casabianca.
Raphaël de Casabianca, c'est le journaliste qui remplace donc Frédéric Lopez. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce moment ?
Au moment où on lui enlève le bandeau des yeux et qu'ils sont à 20 000 pieds au-dessus de l'océan et dans ce voyage, on enlève le bandeau à Franck Gastambide. Et Franck Gastambide découvre à ce moment-là Raphaël de Casabianca.
Alors, j'ai deux questions. Qui êtes-vous ?
Raphaël.
Et où est-ce que vous m'emmenez ?
Quelqu'un qu'il ne connaît pas et avec qui il va partir 3 semaines dans un lieu complètement inconnu. Il a, ce que dit Raphaël de Casabianca, une analyse extrêmement fine de la situation, hyper rapide. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ok, c'était pas prévu comme ça. On se connaît pas, on va forcément apprendre à se connaître parce que pendant 3 semaines on va être coupé du monde. Il faut savoir qu'ils éteignent leur portable, donc ils sont vraiment coupés du monde de leur famille. D'un coup, il arrive à gérer ses émotions et dire bon, ok, c'était pas ce qui était prévu, mais on va transformer ça en une expérience. Ok, on y va.
Je vis ça à moitié comme une trahison très violente et en même temps, le plaisir que j'ai à vivre cette aventure prend le dessus sur tout et j'ai conscience de la chance que j'ai.
Marie Poussel, vous êtes journaliste au service culture du Parisien, vous couvrez notamment les séries et le rap. Vous venez de signer un portrait de Franck Gastambide dans le Parisien à l'occasion du succès de sa série sur Canal+, Validé. Cette scène-là, à l'aéroport, au début de l'émission Rendez-vous en terre inconnue, pour vous, qu'est-ce qu'elle révèle de Franck Gastambide ?
Il peut avoir une image, effectivement, d'un beau gosse que je décris dans le portrait, un comique, alors qu'en fait, il est pétri d'angoisse, pétri de doutes. Et c'est ce qui m'intéressait aussi chez Franck, c'est de raconter comment il en était arrivé là.
On va revenir avec vous, Marie Poucelle, sur le parcours de Franck Gastambide. Il est né à Melun le 31 octobre 1978. Melun où il grandit, dans un pavillon, pas très loin d'une cité, la cité Gaston-Tinck. Que font ses parents ?
Alors, son père tient une papeterie et sa maman est femme de ménage. Il est très discret sur ses histoires familiales, on en sait peu. On sait qu'il a un demi-frère qu'il a perdu de vue. Le plus gros marqueur, quand on évoque avec lui son enfance, c'est qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Qu'est-ce qu'on va faire de lui ?
Parce qu'il a du mal à l'école.
C'est des énormes difficultés qu'il a à l'école. Il m'explique qu'il n'a jamais été avant-dernier une seule fois. Il a toujours été dernier de la classe. Donc, il a dû subir le regard des professeurs qui le jugent, qui sont extrêmement violents avec lui. Quand, vous savez, on donne les notes, il est toujours dernier et il sait qu'il sera toujours dernier.
Elles sont comment, ses copies, quand il est à l'école ?
C'est un drame absolu dans toutes les matières, puisqu'il est incapable d'apprendre l'alphabet. D'ailleurs, encore aujourd'hui, il fait 3 fautes d'orthographe par mot. Il assume complètement. Il est incapable d'apprendre une langue étrangère. Donc, que ce soit en maths, en français, c'est la catastrophe. Les professeurs ne comprennent pas. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un cancre.
Qu'est-ce qu'on découvrira plus tard ?
Avec l'arrivée d'Internet, il se rend compte qu'en fait, il est dyslexique et que toutes ses difficultés à l'école viennent de ce problème, du fait qu'il a du mal à se concentrer et que donc, il a du mal à retenir les syllabes, les phrases, etc.
Quand il a 13 ans, un soir, il joue au foot avec ses amis de la cité Gaston-Tinck et il va se passer quelque chose qui va changer sa vie.
Il va rencontrer un Rottweiler. Ce Rottweiler, il appartient à un membre de l'équipe de la police municipale. Et en fait, il va complètement se perdre dans le regard de ce Rottweiler. Il le décrit comme un gros nounours. Et il va trouver en lui un regard qu'il ne connaissait pas chez ses parents ou chez ses professeurs. C'est un regard sans jugement. Ça le touche énormément. Il me décrit encore le visage de ce chien. Il me le raconte comme un gros nounours. Il est fasciné par ce chien et par la relation qu'il peut avoir avec ce chien sans le connaître.
Qu'est-ce qu'il fait ensuite ?
Donc, il arrête complètement l'école. Et il va s'inscrire pour avoir un CAP d'agent de sécurité parce qu'il se dit que c'est le seul moyen, en tout cas le meilleur pour être le plus possible avec des chiens. Il va commencer à se prendre d'amour pour son métier, c'est une véritable passion, dans un centre de dressage. Donc lui qui était incapable de lire 2 pages d'histoire, il se met à dévorer et à avoir une concentration ultime sur les livres de dressage d'animaux. Il adore ça, il lit tout et d'un coup, en fait, il se sent revivre dans cette relation. Là, il commence en fait à reprendre confiance en lui grâce aux animaux. Et donc, il met sur pied des stages de dressage pour les familles qui viennent le voir et qui lui demandent des conseils pour dresser ces molosses qui sont quand même assez dangereux. Et là, pour la première fois de sa vie, les gens vont l'écouter. Ça va lui redonner confiance en lui parce qu'il excelle. Et ça va changer sa vie.
Et en parallèle, donc, il est aussi vigile pour gagner sa vie.
En parallèle, le soir, il est aussi vigile. Il a son chien et il est vigile dans des entreprises, à France Déchets. Il garde des lieux, des entreprises.
Et ça va continuer comme ça pendant 5 ans, à la fois dresseur de chiens et vigile pour gagner sa vie, jusqu'à ses 20 ans. À quel moment est-ce qu'il découvre le milieu du cinéma ?
Par le plus grand des hasards, il est appelé sur le tournage des Rivières Pourpres de Mathieu Kassovitz. Et là, pour lui, c'est déjà un aboutissement incroyable, parce qu'il ne connaît évidemment pas le milieu du cinéma. Il habite à Melun, on est loin des plateaux et de ce milieu-là. Ils avaient besoin d'un dresseur de chiens, notamment parce que Jean Reno apparemment avait très peur des chiens et qu'il y avait des scènes avec Jean Reno et les chiens. Et donc, il croise Mathieu Kassovitz, son idole, sur ce plateau.
Et ils deviennent amis ?
Et ils deviennent amis grâce aux chiens. Le soir, quand la caméra s'arrête de tourner et qu'il doit aller promener ses chiens, Kassovitz part en promenade. Ils prennent chacun quelques chiens et ils commencent à discuter comme ça, en se promenant avec les chiens.
Dans la foulée, au début des années 2000, Mathieu Kassovitz présente Franck Gastambide au collectif de réalisateurs et d'artistes Courtragemé, le collectif de Romain Gavras, Vincent Cassel ou encore Kim Chapiron. Que se passe-t-il ensuite ?
Kim Chapiron est appelé sur le tournage d'un clip qui s'appelle « Pour ceux » du collectif de la Mafia Quimfri, qui est un clip qui est encore très important dans l'histoire du rap aujourd'hui, car c'était un premier clip qui avait été tourné en cité. Dans ce clip, on voulait mettre tous les codes de la cité d'époque et les codes de la cité, ça passait par les pitbulls. Kim Chapiron appelle Franck Gastambide pour ramener des pitbulls sur le clip.
En 2004, il apprend qu'Eric et Ramzy cherchent un chien pour incarner Rentemplant dans le film Les Dalton.
Il les appelle et il leur dit « C'est bon, j'ai votre chien, j'ai Rentemplant ». Donc ils sont extrêmement étonnés parce que Rentemplant, c'est pas une race. C'est un dessin. Ça a été créé complètement dans l'imagination. Donc, ils ont dit, génial, le mec a rentré en plan. Frank Gastambide arrive et rencontre Eric et Ramsey. Et là, ils le prennent pour un fou parce qu'il arrive avec un bichon maltais. Donc, il n'a absolument rien à voir avec Rentemplant. C'est un tout petit chien blanc qui ressemble pas du tout à Rentemplant. Et là, les mecs explosent de rire en lui disant « Mais tu te fous de notre gueule, là. C'est quoi ce truc-là? C'est pas du tout Rentemplant. » Et il dit « Non, mais au moins comme ça, je vous ai rencontré et je vous jure que je vais vous le trouver, votre Rentemplant. » Alors que en plus, ils étaient en train d'essayer de même le faire que en 3D ou avec des effets spéciaux. Et Ramsey tombe sous le charme du culot de ce gamin qui est prêt à tout pour lui trouver un Rentemplant. Et ils ont raison de lui faire confiance parce que quelques mois après, ils vont trouver un chien qui ressemble énormément à Rentemplant.
Grâce à Courte Rajmé, Frank Gastambide rencontre aussi l'animateur Mouloud Achour.
C'est toujours une histoire d'animaux. Cette fois, c'est sur le film Chétan. Ils ont besoin d'un ragondin. Et donc, Frank Gastambide débarque avec un ragondin. Mais d'après ce que me raconte Mouloud Achour, il a du mal à gérer ce ragondin. Et tout le monde rigole hors caméra de ce mec qui gère pas trop le ragondin. Et finalement, là aussi, ils se prennent d'amour pour Frank Gastambide, à tel point qu'ils partent même en vacances ensemble au Brésil. Et première fois que Gastambide se retrouve avec un caméscope dans les mains. Ils sont sur la plage, ils commencent à filmer des bêtises, des sketchs qui les font beaucoup rire. C'est des vacances entre mecs. Et là, Mouloud Achour se dit que Frank Gastambide et la caméra, ça peut faire quelque chose. Et donc, il lui offre son premier contrat de cadreur, lui qui est à l'époque animateur sur MTV.
Et c'est grâce à ça que Frank Gastambide commence à filmer et il va, peu de temps après, faire une web-série pour Canal+.
Oui, il a une très bonne idée, c'est qu'il va s'inventer un personnage qui est proche de ses amis dans les quartiers. C'est-à-dire qu'il va poser une caméra en bas d'une tourne d'une cité qu'il connaît bien, à Melun, où il a grandi. Il est avec ses deux copains et ils refont le monde en faisant des parodies de télé-shopping. À l'époque, tout le monde regarde le télé-shopping. Et eux, ils ont la bonne idée de faire du Kaira shopping. Donc, ils refont le monde, ils font des sketchs. La patte de Gastambide est déjà là, cet humour un peu graveleux, mais qui fait beaucoup rire, avec beaucoup de références générationnelles. On parle déjà beaucoup de rap et ça fonctionne.
Bim! Bande de bâtards, bonjour, bienvenue sur Kaira Shopping, vous connaissez le principe de l'émission, Abdelkrim et Moustaine.
Cette web-série Kaira Shopping va devenir un film, Les Kaira, que Frank Gastambide va réaliser et sortir en 2012. Ce sera un succès commercial, un film à l'humour parfois très trash.
Et très segmentant. Il y a notamment une scène qui a été très compliquée et les gens qui ont lu le scénario au début ont eu beaucoup de mal en se disant « Est-ce que tu es sûr, Frank Gastambide, que tu vas aller aussi loin ?»
Oh, c'est parfait, hein.
C'est notamment une scène où il y a une personne en surpoids qui se fait faire un cunnilingus par un nain et qui devient femme fontaine.
Attention ! Attention !
Attention à quoi ?
Alors cette scène à l'écrit, évidemment, choque énormément. Ses producteurs se disent « Est-ce que tu es sûr d'aller jusqu'au bout ? Comment ça va être pris ?» Il est sûr de lui, il fonce et il a raison parce qu'aujourd'hui, ça reste une des scènes cultes chez les nombreux fans de Frank Gastambide.
Grâce à ce film, Frank Gastambide va aller au Festival de Cannes et monter les marches du Palais des Festivals. Qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là ?
Là, il comprend rien. Ça va trop vite, il hallucine. Jusqu'avant de monter les marches, il se demande s'ils ne se sont pas trompés de numéro de téléphone et si c'est bien lui qui monte les marches. Il attend après de voir si c'est bien diffusé à la télé parce qu'il pense même que ça va être coupé au montage sur la montée des marches. Et pour le coup, là, ça va très très vite parce que le Festival de Cannes, c'est la vitrine extrêmement luxueuse et classieuse du cinéma français. Et lui, il débarque avec ses blagues graveleuses et c'est une première marche de la reconnaissance qu'il attend depuis des années.
C'est un moment fort pour lui.
C'est un moment extrêmement fort. C'est un moment dans lequel il se dit peut-être d'autres portes vont s'ouvrir derrière. Et en tout cas, il croit de plus en plus en lui.
En 2016, il signe son second film, Pattaya, dans la lignée des Kaira, trois amis qui ont grandi dans une cité, qui partent en vacances en Thaïlande. Le rêve va se transformer en cauchemar. Et c'est là encore un énorme succès.
Il fait tourner donc Ramsey qui le suit, qui est son grand frère, avec qui il a une relation extrêmement forte et qu'il conseille régulièrement. Gad Elmaleh, pareil, tête d'affiche du cinéma français, des comiques qu'il a toujours regardé depuis qu'il est petit. Et le film fonctionne aussi et ça devient culte aussi.
Et Pattaya fera 2 millions d'entrées au niveau de sa vie privée. C'est grâce à ce film qu'il rencontre une comédienne qui va devenir sa compagne.
C'est là qu'il rencontre Sabrina Ouazani. Ils sont très discrets sur leur relation. Ça fait maintenant quasiment 6 ans qu'ils sont ensemble. C'est quelqu'un qui le conseille, qui le rassure. Il dit d'elle que c'est aussi son meilleur pote et c'est ce qu'il attend chez une femme. C'est quelqu'un qui va faire partie entière de sa vie professionnelle et privée.
Franck Gastambide va tourner 2 films en tant qu'acteur en 2017 et 2018. La surface de réparation et Damien veut changer le monde. 2 films d'auteur.
2 films d'auteur où personne ne l'attend. Et la comédie, ça marche. Mais il a envie aussi qu'on dise de lui que c'est un bon acteur et que c'est pas juste un clown.
Qu'est-ce que tu fous avec un tocard pareil ?
Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs ?
C'est ma ville, c'est mon club.
Qu'est-ce que tu fais, Franck ?
Moi, j'ai rien à perdre. Fais-moi confiance, ça va bien se passer.
Il est encore un peu dans le syndrome Ciao Pantin de ces acteurs de comiques et qui, en fait, ont besoin de aussi montrer qu'ils peuvent être jouer des rôles sérieux. On m'explique, un de ses amis m'explique notamment que il veut aussi prouver que s'il fait des comédies, c'est par choix et pas parce qu'il peut faire que ça.
En 2018, en tant que réalisateur, il sort Taxi 5, un carton, 3,5 millions d'entrées. Est-ce qu'il connaissait Luc Besson ?
Non, il connaît pas Luc Besson, mais c'est un fan de Taxi. Il dit, nous les mecs des 77, on aime les grosses voitures. Il assume complètement cette culture-là, très populaire. Et donc, il y va au culot. Il a à l'idée de ressusciter Taxi. Et donc, il part voir Luc Besson sur le tournage. Et donc là, il se retrouve sur le tournage de Valérian, qui est une énorme production. Ça lui donne encore plus le goût des grosses productions. C'est le cinéma qu'il a envie de faire. Il assiste comme un petit stagiaire encore à toute cette journée. Et puis, il se retrouve dans une caravane de tournage avec Luc Besson. Apparemment, Luc Besson ne dit pas grand-chose. Il écoute et il déroule son projet pour Taxi. Il y a un blanc et il lui dit OK.
En parallèle de Taxi 5, il travaille sur un projet de série sur le rap. Pourquoi est-ce qu'il veut faire une série sur ce milieu ?
Il est fan de rap, fan au premier sens du terme, fan de la Mafia Quimfri sur lequel il a tourné donc quand il était jeune, fan de Booba, fan de NTM, fan de IAM. C'est vraiment des gens qu'il écoutait toute la journée quand il était jeune. Et donc, il a mis un point d'honneur sur Pattaya et sur les Kaira à monter des bandes originales avec des rappeurs. Pour ces bandes originales, il a passé beaucoup de temps en studio. Et donc, il a vécu un peu comme un directeur artistique. Et c'est là où il a commencé à avoir des envies de série sur le rap.
Et une personne va être importante au tout début de ce projet, c'est l'acteur et rappeur Moussa Mansali. Qui est-il ?
Alors Moussa Mansali, c'est un acteur qui s'est fait remarquer dans l'équipe de Grand Corps Malade en ayant 2 rôles dans Patient puis dans La Vie scolaire. Et c'est Sabrina Wazani qu'il connaît depuis très longtemps et qui va faire cette passe décisive, comme dit Franck Gastambide, et qui va lui présenter Moussa Mansali. Et Moussa Mansali, c'est quelqu'un qui a une réputation assez solide dans le rap, qui a fait des tubes dans le rap et il connaît par cœur le milieu. Ils partent ensemble sur le tournage de La Surface de réparation. Et là, le soir après le tournage, Moussa commence à lui raconter sa carrière dans le rap. Et ça passionne Franck, lui qui est fan de rap.
Qu'est-ce qui le passionne à ce moment-là ?
Ce qui le passionne, c'est les gens qui font le rap, ces destins de personnes qui sortent des quartiers, qui racontent leur vie quotidienne, leurs difficultés, et qui aujourd'hui sont les stars absolues en France et remplissent des stades.
Comment est-ce que l'idée de Franck Gastambide est accueillie dans le milieu du rap ?
Avec beaucoup de pincettes. Les gens ont assez peur parce que le milieu est un milieu très fermé, assez clanique, tout le monde se connaît. Il faut savoir que le rap et les médias, c'est une histoire très très compliquée. Les rappeurs sont souvent stigmatisés, on les caricature énormément et donc il y a toujours cette méfiance vis-à-vis des médias en général. Et Franck Gastambide, il est symbolisé par ses comédies avec cet humour qui est quand même très segmentant et donc les rappeurs n'ont pas envie qu'on se foute de leur gueule. Ils n'ont pas envie de cet humour-là dans leur milieu et donc il va falloir qu'ils s'appuient sur des figures du rap, notamment Moussa Mansali, qui lui va aller convaincre un à un les rappeurs du projet.
Et pour convaincre les rappeurs de venir dans ce projet, il a un autre atout.
Cet autre atout, c'est Fred Musa. Il est souvent qualifié de taulier du rap français parce qu'il a depuis plus de 20 ans une émission qui cartonne qui s'appelle Planète Rap sur Skyrock. Toutes les semaines, il reçoit un rappeur qui vient et qui fait des freestyles. Et donc, c'est important dans une carrière de rappeur de faire cette émission. Et Franck Gastambide a rencontré Fred Musa à l'époque des Kaira. Et donc, il va passer des soirées entières avec Fred Musa. Et Fred Musa va lui raconter toutes les petites anecdotes qu'il a. Et lui va se nourrir de ça pour justement remplir la principale mission de la série, c'est que ce soit véridique. Il voulait pas être faire le clown et rendre hommage en fait au rap, mais la condition sine qua non, c'était qu'il les respecte.
Marie Poucelle, vous nous disiez au début du podcast que Franck Gastambide a été handicapé enfant par sa dyslexie, mais dans sa carrière, il a beaucoup étudié la façon dont on construit les scénarios.
Oui, il a notamment un livre de chevet de Judd Apatow, quelqu'un qui est un symbole pour lui, un modèle de cet humour et qui a réussi en construisant un empire. Et il s'entoure aussi pour la première fois dans le cadre de sa maison de production qui s'appelle Autodidacte avec un K, une faute d'orthographe en référence à son parcours, d'auteur. Et il passe des heures à se raconter des histoires avec tout ce qu'il a appris des soirées avec les rappeurs, avec Fred Musa, avec Moussa Mansali, pour cadrer l'écriture de cette série.
Le 20 mars, juste après le début du confinement en France, sa série, validée, sort sur les plateformes de streaming de Canal+. Elle est comment d'abord cette série ?
Elle est très réussie, notamment par rapport à sa feuille de route du départ, c'est-à-dire qu'elle est très véridique.
Oh, le cafard en bas là, Clément.
Ouais.
C'est ton cousin ça ?
Ouais.
Je veux plus que tu fasses les tournées avec lui, t'as compris ?
Ça change quoi ?
À deux, vous êtes grillés là. Tu fais les tournées tout seul, je veux plus te voir avec.
Je le déposerai à la gare.
Tu le déposes où tu veux, je m'en bats les couilles, je veux plus le voir.
Tous les gens qui travaillent dans le milieu s'y reconnaissent. Alors certes, il choisit un personnage qui sort des cités, qui a encore des galères avec le deal et à se séparer du milieu, mais ça parle énormément et comme dit Franck Gastambide, dans la série, on va même moins loin que la réalité puisqu'ils sont en train d'écrire et que c'est à ce moment-là que Caris et Booba se battent et font fermer un hall entier de l'aéroport d'Orly. Donc, tous les acteurs dans les coulisses de ce milieu s'y retrouvent et c'était là son principal challenge.
T'es fan de Mastar en fait, c'est ça ?
Ah ouais, moi, Mastar, c'est un de mes rappeurs préférés. Avec Booba, Rof, la mafia Kinfri.
Il a dit qu'il était chaud, il est monté.
T'es allez. Chaud, on te balance une instru ?
Ouais, on peut essayer, ouais.
Ok, allez, c'est parti, on se trouve maintenant.
Ah, appelle-moi un pacheur de mon tipi. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est du parc. Il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance, donc n'appelle pas ça.
Et validé est un succès populaire.
C'est le record historique d'une série sur Canal+, devant le Bureau des légendes, devant toutes les grosses têtes de gondole des créations de Canal+, puisqu'on est à 18 millions de vues, et ce qui est un record historique pour Canal+.
Franck Gastambide va tourner une deuxième saison de Validé.
Alors avec le contexte du coronavirus, il devrait être déjà en train de tourner, ça va avoir lieu. Mais ce qui est encore plus génial, c'est qu'il ne s'attendait absolument pas à ce succès et que du coup, l'attente est encore plus forte. Donc, connaissant Franck Gastambide, je pense que le fait qu'il y ait quelques mois encore d'attente va faire un peu monter la sauce et ça lui plaît bien.
Marie Poucelle, vous avez donc signé un long portrait dans Le Parisien de Franck Gastambide. Le titre, c'est « Franck Gastambide, enfin validé ». Pourquoi ce titre ?
Ce titre s'est imposé dès les premiers jours où j'ai commencé à travailler sur ce portrait. Parce que c'est la première fois qu'on le prend au sérieux. C'est un projet qui lui a tenu à cœur. Personne n'était arrivé à faire ce projet-là dans le milieu du rap. Et donc, enfin, il est reconnu pour autre chose qu'une comédie.
Merci à Marie Poucelle. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à nous le dire en mettant des petites étoiles et en vous abonnant sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode de Code Source a été conçu et préparé par Stéphane Geneste, production Raphaël Pueyo et Mathias Ardoy, réalisation Julien Moncouquiole.